L'actualité étudiante à Compiègne, présentée par Axel Corby.
Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans ce dernier épisode de l'émission Miaou, manger en s'informant sur l'actualité des assos étudiantes de l'UTC. On se retrouve comme tous les vendredis à 12h30. Aujourd'hui, invité spécial, je suis avec Mathilde et Thibaut. Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va, et toi ?
Ça va également, merci.
Pareillement, ça va très bien.
Au programme, un rapide retour sur les actualités étudiantes, une interview avec Mathilde qui est partie cette année en Erasmus et Thibaut qui a également suivi le programme il y a 2 ans. On est début juillet donc vous allez voir, on va voyager aujourd'hui pour se mettre dans le thème. Puis nous finirons par un quiz avec nos invités. Mardi 4 juillet, fin du suspense, les résultats du bac ont été dévoilés. Au total, plus de 700 000 étudiants étaient concernés, qu'ils soient en filière générale, professionnelle ou technologique. D'après les premiers chiffres donnés par le ministre de l'Éducation nationale, 84,9% des candidats ont été admis pour le moment. L'année dernière, le taux de réussite, épreuve de rattrapage comprise, avoisinait les 91%. On reste sur la thématique du bac. Le plus jeune bachelier de cette année a 12 ans. Il s'appelle Adam, il a obtenu la mention bien. Et malgré sa réussite et son parcours, le francilien s'est vu refuser tous ses vœux sur Parcoursup. Pour certains spécialistes de l'orientation, son âge joue en sa défaveur. Le jeune garçon a confié au média Le Parisien qu'il espère avoir plus de chances lors de la deuxième phase d'admission. Dans un instant, on parlera du programme Erasmus avec Mathilde, étudiante à l'UTC, et Thibaut. Avant ça, on écoute une musique tout droit venue d'Espagne, Clandestino de Manu Chaos sur Graphite.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Nous venons d'écouter Manu Chao et non Manu Chao, son titre Clandestino sur Graphite, il est 12h38. Je suis avec Mathilde et Thibaut, deux étudiants qui tous les deux ont suivi un parcours en Erasmus lors de leur scolarité. Ils vont nous raconter et comparer un peu comment ils ont vécu leur expérience. Mathilde est partie en Bulgarie, à Sofia plus précisément, et Thibaut à Valladolid, au nord-ouest de l'Espagne. Alors, pourquoi vous avez voulu quitter la France et partir faire une partie de votre cursus à l'étranger ?
Déjà, on est obligé de partir au moins un semestre à l'étranger dans notre cursus. Et j'ai eu l'occasion, du coup, à la fin de ma deuxième année de classe préparatoire, de pouvoir partir. Et c'était l'occasion de voyager, de partir facilement, de pouvoir étudier, améliorer mon anglais aussi, pour pourquoi pas faire des stages à l'étranger aussi. Donc voilà.
Pour ma part, du coup, il y avait d'une part le fait qu'on doit avoir une expérience à l'international, effectivement, mais je pense que ce n'est pas forcément ça qui a primé d'abord dans ma décision. C'était plus... Donc je suis parti en fait au printemps 2021 et du coup, c'était un an après le Covid et je sais pas, j'avais envie du coup un peu de changer d'air et j'avais du coup cette opportunité. Et surtout, j'avais un ami aussi. En fait, on était un peu tous les deux à se poser la question de pourquoi pas partir, parce que je pouvais aussi partir plus tard, ça importe peu. Mais oui, très curieux de vivre une expérience comme ça. Et aussi, c'est l'accès à d'autres cours qu'à l'UTC qui m'a semblé intéressant et la possibilité en fait, de choisir des choses même qui sont un peu écartées des études d'ingénieur parfois.
Vous êtes partis tous les deux dans deux pays complètement différents. Pourquoi vous avez fait ces choix de pays ?
Moi, c'était mon cinquième choix parce qu'on doit mettre dans l'ordre, un ordre de priorité dans nos choix. Mais je voulais partir en Europe de l'Est parce que là-bas, les cours sont en anglais. Et comme j'étais en classe prépa, si je partais en Espagne, il fallait plutôt que je parle espagnol, tout ça. Donc, j'avais choisi l'Europe de l'Est. Et puis la Bulgarie, on m'avait dit que c'était un super endroit pour partir en Erasmus. Enfin, j'avais eu des bons retours. Donc je l'avais mis en me disant pourquoi pas. Et donc j'ai été prise en Bulgarie. Et voilà.
Et du coup, l'Espagne, parce que pour le coup, c'était vraiment un de mes premiers choix. J'avais mis plusieurs vœux en Espagne. Et j'avais mis Valladolid parce que c'était pour moi pas une ville si connue que ça. Et du coup, c'est aussi un peu ce qui m'attirait justement plus qu'aller dans une grande ville comme Valence, Séville ou Madrid. Et du coup, l'Espagne, parce que pour le coup, je me sentais plutôt à l'aise en espagnol. Dès mon arrivée à l'UTC, j'avais validé un certain niveau. Et du coup, je me disais, je pense que je me sens capable de partir. Et voire même, j'aimerais surtout apprendre à être plus à l'aise à l'oral, parce qu'à l'écrit, je me trouvais sans trop de difficultés, mais par contre, c'était plus pour se lancer et discuter vraiment que là, je me disais, je pense que je peux beaucoup progresser grâce à Erasmus.
Et vous sentez le progrès, du coup, dans la langue, maintenant ?
Moi, en anglais, à l'oral, je suis beaucoup, beaucoup plus à l'aise qu'avant. Enfin, oui.
Pour l'espagnol, pareil, vraiment... J'ai senti quand même vraiment que j'ai largement progressé, surtout aussi en compréhension. Enfin, déjà, je m'attendais à avoir plus de mal que ça pour comprendre les Espagnols natifs. Et finalement, il s'avérait que je trouvais que je comprenais vachement bien en cours. Et après, du coup, effectivement, au fur et à mesure, le fait de devoir s'exprimer, j'ai eu quelques travaux de groupe où je devais présenter des choses à l'oral. Et du coup, ça aussi, ça m'a forcément contraint à parler espagnol et surtout devant des Espagnols natifs. Et forcément, ouais, ça fait que j'ai énormément progressé.
Donc du coup, vous étiez en immersion totale, c'est-à-dire que l'école, c'était une école étrangère également. Il n'y avait pas du tout de français, vous n'avez pas du tout de cours en français.
Moi, j'avais pas du tout de cours en français là où j'étais, à l'université de Valladolid. J'ai croisé par contre d'autres étudiants français. Et après, sinon, j'avais des cours en anglais. J'avais un cours en anglais parmi mes six cours.
Et moi, en Bulgarie, ils ont souvent dans les universités un pôle français, parce qu'ils apprennent beaucoup le français là-bas. Du coup, oui, il y avait des Bulgares qui parlaient français et certains profs que j'avais parlaient français. Mais la plupart des cours où j'ai vraiment eu cours, ils étaient en anglais. Et ouais, mais j'ai croisé pas mal de Français aussi. Il y avait beaucoup de Français en Erasmus à Sofia.
Alors, question quand même primordiale, mais vous êtes resté combien de temps ?
Moi, 3 mois en tout. Ouais.
Moi, je suis resté un peu plus de 5 mois, 5 mois et demi.
Et donc, c'est quoi les grosses différences de système universitaire que vous avez pu observer, comparé à la France, par exemple, du coup ?
Après, moi, ça m'a semblé assez... C'était plutôt Enfin, c'était pareil qu'en France. Après, moi, j'ai vraiment eu cours. Enfin, comme les profs, ils faisaient les cours en bulgare. Ils nous faisaient un peu des cours particuliers en anglais ou en français. Et donc, j'ai pas vraiment eu beaucoup de cours avec d'autres bulgares, sauf un. Mais ça me semblait assez
proche, assez proche, similaire
que la France.
Moi, je ne sais pas si c'était une spécificité de l'université de Valladolid, mais j'avais des cours d'une heure plus que de deux heures. Et du coup, c'est quelque chose que j'apprécie un peu plus, surtout en langue étrangère. Je pense aussi que c'était le fait que le niveau... c'était les deux premières années post-bac aussi en Espagne, les cours auxquels je prétendais. Et du coup... il y avait aussi, à mon avis, ça, le fait que c'est encore les deux premières années post-bac et du coup, on était en effectif plus réduit par classe. Du coup, c'était pas dans des grands amphis bondés. Au contraire, c'était plutôt des salles où on devait être au maximum peut-être 50 étudiants. Et du coup, c'est peut-être là que ça diffère un peu de l'UTC. Mais je pense qu'il y a d'autres universités espagnoles, peut-être aussi, qui sont plus fréquentées, où il y a des systèmes qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on connaît en France.
Et du coup, toi, à titre personnel, tu as préféré justement les grands amphis ou les classes un peu plus...
Je préférais du coup les classes en plus petit comité, effectivement.
Et pourquoi vous conseillerez ou non le pays où vous vous êtes rendu ?
Moi, je le conseillerais si on a envie de pouvoir voyager un peu en Europe de l'Est et découvrir des pays auxquels on ne pense pas vraiment. Et... après, c'est tellement un pays auquel on ne s'y rendrait pas forcément en vacances que c'est l'occasion de découvrir une autre culture aussi qui est vraiment différente de la France pour certains points. Donc, c'était très intéressant.
Et pourquoi aller en Espagne ? Déjà, l'Espagne, c'est un pays où il y a une énorme diversité de paysages, vraiment. Et surtout, c'est assez facile, finalement, de voyager au sein du pays, d'aller aussi au Portugal depuis Valladolid. On avait seulement 4 heures de route. Et parce que, aussi, c'est une destination Erasmus, entre guillemets, qui s'est un peu forgé une réputation. Et du coup, sur place, dans toutes les universités espagnoles, il y a un peu comme à Compiègne, il y a une association Erasmus Student Network, où du coup, c'est des étudiants locaux qui organisent des événements pour les étudiants internationaux qui viennent en Erasmus. Et donc, il y a énormément d'activités faites pour d'abord briser la glace avec les autres étudiants et après aussi approfondir les relations. Et du coup, il y a des voyages aussi organisés à bas coût. Donc forcément, ça rend aussi l'expérience encore plus plaisante.
Comment s'est passé les premiers jours quand vous êtes arrivé là-bas, sachant que vous étiez un peu seul dans un pays inconnu? Vous retenez quoi des premiers jours que vous avez passés sur place?
Alors moi, c'est vrai qu'il y avait aussi une association ESN qui était très active. Donc on avait beaucoup, on avait à peu près 3 semaines d'intégration où il y avait à peu près tous les jours des activités. Et du coup, moi, j'ai d'abord rencontré les Français qui étaient dans la même université que moi. Et les premiers jours, c'était un peu compliqué parce que, vu que c'est pas dans l'espace Schengen, la Bulgarie, il fallait qu'on aille à la migration, qu'on fasse qu'on remplisse des papiers et tout, qu'il fallait remplir en bulgare alors qu'on savait pas écrire le bulgare. Enfin, c'était un peu compliqué.
Vous avez eu des aides pour ça, pour remplir les documents en bulgare ?
Pas trop, mais on s'est débrouillé avec Google Traduction. Mais en vrai, c'était... ça nous a pris du temps, mais bon, ça s'est fait. C'était une expérience à vivre.
Pour le coup, j'ai un peu les mêmes anecdotes. C'est dans l'espace Schengen, il me semble, l'Espagne, mais effectivement, on a dû se déclarer un peu. On a dû obtenir une sorte de titre de séjour, justement, en tant qu'étudiant Erasmus pour 6 mois. Et du coup, ouais, moi, je crois qu'on avait dû aller dans un bureau de police, mais en plus, c'était à l'autre bout de la ville et vraiment, il n'y avait que ce bureau de police où on pouvait faire ce genre de démarche. Et ouais, pareil, l'impression de pas trop comprendre ce qu'on faisait et pas se sentir très très accompagné aussi. Mais finalement, ça s'est bien passé aussi. Il y avait des démarches à faire dans l'université, je crois. Parce qu'en gros, il y avait une banque rattachée à l'université pour payer des frais. Enfin, en plus, ouais, il y avait aussi le côté... Normalement, on n'avait pas de frais de scolarité à débourser, mais finalement, on a eu quand même quelques frais à débourser dont on ne nous avait pas parlé à l'avance. Alors, c'était des frais minimes.
Mais, donc, c'est arrivé sur place que vous avez découvert du coup
c'est sur place qu'on s'est rendu compte qu'on avait des frais à avancer pour obtenir du coup une carte d'étudiant aussi. Il y avait aussi des démarches à faire à ce niveau-là.
Et après, ce sentiment, il s'est estompé, le sentiment d'être un peu perdu à l'arrivée.
Oui, le sentiment, il s'estompe très vite et aussi grâce aux rencontres qu'on fait et la sensation qu'on commence à, entre guillemets, créer son petit nid sur place.
Et c'est quoi la chose qui vous a le plus manqué de la France quand vous étiez là-bas ?
Moi, c'était le fromage déjà en premier, parce qu'il n'y avait vraiment pas de choix. Enfin, c'était vraiment que la feta ou la feta un peu bulgare. Du coup, ça m'a vraiment manqué. Et ouais, il y avait beaucoup de... Enfin, il n'y avait pas des... Par exemple, les chaînes de supermarchés et tout était super différent de la France. Enfin, y avait...
Ça se passe comment là-bas ? C'est que des petits magasins ?
Non, il y a des chaînes aussi, mais ce n'est pas les mêmes... que la France. Enfin, alors que quand tu vas en Roumanie, tout de suite, t'as des Carrefour, des Auchan ou des choses comme ça. Alors qu'en Bulgarie, c'est vraiment à part un peu. Et donc, c'était...
T'étais un peu dépaysé quand même, quoi, comparé à la France.
Ouais, voilà.
Je pense que ce qui m'a manqué, en fait, ce que j'ai pas retrouvé en Espagne, c'est le bon goût du pain. Parce qu'en Espagne, ils font du pain, mais ça a pas grand-chose à voir avec le pain français, les baguettes, tout ça.
C'est vrai que le pain ici, c'est sacré.
Et le pain là-bas, on a testé plusieurs choses, le pain de supermarché, et il y avait aussi des boulangeries, et déjà on trouvait meilleur le pain de supermarché, effectivement. En fait, ils sont plus peut-être spécialisés dans les pâtisseries très sucrées. Ça, par contre, il y avait du choix, il y avait des choses vraiment, vraiment très savoureuses, mais par contre, le pain, c'est, je pense, ce qui pouvait manquer.
Il est 12h50, c'est le moment de faire la pause musicale. Je rappelle que nous sommes en direct sur Graphite avec Mathilde, étudiante à l'UTC, et Thibaut. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'interview sur le programme Erasmus. Avant ça, on écoute une chanson du bulgare Ivo Dimchev, son titre Pastral, pardon, sur Graphite. Mathilde, ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs de Bulgarie.
И ты си порцал, я сопорцал, но на теб сердце-то бих си дал. И ты си порцал, я сопорцал, но на теб сердце-то бих си дал. Бих дал, 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 всичко бих ти дал. Евала, бе, евала, бе, евала. Ашко сум, бе, евала. Сега го видях и вътреш много усетих. Ти при мен ке спиш, при мен ке спиш и до мене ке се събудиш. Сега го видях и вътреш много усетих. Ти при мен ке спиш, при мен ке спиш и до мене ке се събудиш. Казах, о, казах, о, казах, казах, казах. Казах, о, казах, о, казах, казах, казах. Ево лъбо Бога ми, ево лъбо Бога ми, добре се държи. Ево лъбо Бога ми, ево лъбо Бога ми, виждам, че гориш. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. Бих дал, 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 всичко бих ти дал. Ево лъбе, ево лъбе, ево лъбе, ашко сум бе, ашко сум бе, ево лъбе. Сега го видях и вътреш много усетих. Ти при мен ке спиш, при мен ке спиш и до мене ке се събудиш. Сега го видях и вътреш много усетих. Ти при мен ке спиш, при мен ке спиш и до мене ке се събудиш. Казах, о, казах, о, казах, казах, казах. Казах, о, казах, о, казах, казах, казах. Аз съм много нежна, 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 много ненадежна. Аз съм много нежна, 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 много ненадежна. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. Бих дал, 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 всичко бих ти дал. Евала, бе, евала, бе, евала. Ашко сум, бе, ашко сум, бе, евала. Сега го видях и вътреш много усетих. Ти при мен ке спиш, при мен ке спиш и до мене ке се събудиш. Сега го видях.
Nous venons d'écouter Partsal de Ivo Dimesh sur Graphite. Il est 12h53. Nous sommes en direct avec Mathilde et Thibaut qui sont étudiants à l'UTC. Mathilde revient de Sofia en Bulgarie. Elle a réalisé une partie de son année scolaire là-bas. Et Thibaut, lui, est parti il y a 2 ans faire un Erasmus en Espagne à Valladolid. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, vous pourrez réécouter le début de l'émission Miaou Manger en s'informant sur l'actualité des assos étudiantes de l'UTC en podcast sur notre site graphite.net. Alors, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant ?
Déjà, ça m'a beaucoup aidé pour m'améliorer en anglais, ce qui était le premier point pour lequel je voulais partir. Et sinon, c'était vraiment découverte d'une culture et de découverte de plein de gens, de plein de pays et de plein de cultures. Et c'était ça, le voyage, découvrir plein de choses. C'est ça que ça m'a vraiment apporté.
Un peu déjà sur le côté professionnel, ouais, le côté langue, enfin, même si c'est pas que professionnel, mais effectivement prendre confiance dans l'expression en espagnol, et aussi du coup tout simplement aussi de la confiance en soi, parce que du coup c'est un peu une expérience où on apprend à oser faire des choses qu'on se pense pas capable de faire. Et l'effet de groupe, le fait aussi qu'on se connaisse pas encore beaucoup au départ et qu'on vienne tous d'horizons différents, ça, je pense que ça nous aide un peu à oser faire des choses. Et il y a aussi le côté, on a envie aussi de, enfin, on pense qu'on représente un peu notre pays et donc on a envie aussi un peu de dévoiler un peu aux autres notre pays à notre manière.
Véhiculer une image.
Et véhiculer une image, tout à fait. Apprendre à être à l'aise dans un contexte international, et puis derrière aussi, du coup, forcément, oser voyager, oser se mettre dans des situations parfois un peu compliquées, parce que on doit retrouver sa route, ou alors parce que plus de batterie ou des choses comme ça. Mais c'est aussi forcément vraiment sortir de sa zone de confort.
Et alors, avant de partir vivre cette aventure, vous avez sûrement dû faire des démarches pour partir avec ce programme. Ça a été quoi les démarches administratives à faire avec l'école ou...
Avec l'école, c'était plutôt facile. Enfin, il fallait envoyer quelques informations sur nous, mais c'était plutôt pour les bourses où il fallait envoyer. Il fallait faire des démarches pour toutes les bourses à laquelle on était. Qu'on pouvait obtenir.
Parce que du coup, vous avez eu le droit à des aides financières pour partir. Du coup, c'était pendant le voyage que vous aviez des aides financières ou avant ?
La bourse Erasmus+, c'est plutôt après qu'on la reçoit. Mais, et même, en vrai, la bourse de la région, c'est aussi vers la fin de l'Erasmus qu'on l'obtient. Mais, parce qu'après, on n'a que 80% et ensuite, les 20% restants, on les a quand on a fini notre Erasmus et qu'on leur donne l'attestation. Donc, ouais.
Et alors, pour terminer cette interview, c'est quoi les meilleurs conseils que vous pourriez donner aux autres étudiants qui souhaitent partir en Erasmus ?
Je dirais qu'un Erasmus, quand même, ça se prépare. Même si on peut avoir l'idée de partir un peu sur un coup de tête, il faut le préparer justement un peu en termes administratifs. Enfin, parce que pour le coup, moi, j'ai pas un très bon souvenir de la phase de préparation, surtout auprès de l'UTC. Enfin, je pense que c'était aussi à cause du contexte où c'est juste après la crise sanitaire. Il y avait encore, une inertie dans le système administratif, mais c'était super long. Puis j'avais l'impression d'avoir du mal à obtenir les informations que je voulais. Et il y a beaucoup d'intermédiaires quand on communique à la fois avec l'université partenaire ou à la fois avec l'UTC. Et puis aussi, il faut essayer. Des fois, c'est un peu nous l'intermédiaire entre les deux. Alors qu'on, je me disais, il doit y avoir des échanges, mais en fait, des fois, c'est nous qui permettons l'échange. Donc, ça se prépare, ouais. Et en même temps, il faut pas baisser les bras lorsqu'on rencontre un peu des difficultés ou qu'on a des doutes, qu'on a l'impression d'être mal informé. Il faut se dire, tant pis, je vais chercher les informations moi-même. Et du coup, il faut vraiment persévérer, ne pas baisser les bras lorsqu'on a un peu de difficultés. Ou pareil, quand on cherche un logement. C'est pas parce qu'on trouve pas tout de suite qu'il faut se dire c'est bon, tant pis, je vais pas partir. Au contraire, c'est aussi normal d'avoir des difficultés. Et du coup, il faut se préparer un petit peu à affronter des choses.
Des difficultés que vous pouvez rencontrer, du coup, à chaque moment. Et vous, Mathilde, du coup ?
Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Et aussi, ça m'avait beaucoup aidé de demander aux gens qui étaient déjà partis dans la même ville ce qu'ils pouvaient me donner comme conseil, du coup, avant d'arriver. Et c'est vrai que ça m'avait été très utile pour mon arrivée en Bulgarie.
Bien, écoutez, il est malheureusement bientôt l'heure de se quitter. Avant ça, nous allons tranquillement finir par un jeu. C'est vous, du coup, Mathilde et Thibault, qui allez y participer. Le thème de cette semaine est bien choisi, ça sera sur les études à l'étranger. Donc pour ça, à chaque fois, vous avez trois propositions de réponses. Donc, première question, est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Quelle est la première destination au monde pour étudier à l'étranger ? Réponse A, les États-Unis. Réponse B, le Royaume-Uni. Ou réponse C, l'Australie ?
Je dirais bien le Royaume-Uni.
Ouais, moi aussi, la B.
Vous êtes tous les deux d'accord sur le Royaume-Uni ?
Oui.
Ouais.
Et c'est une bonne réponse. Ouais. Il s'agit du Royaume-Uni. Ça a été pendant longtemps l'Australie, mais cette année, le classement a changé et le Royaume-Uni gagne le trophée du pays avec le meilleur enseignement de qualité. Question numéro 2. Alors, donc là, on se situe en 2021. À combien s'élevait le nombre d'étudiants étrangers en Australie, du coup, cette fois ? Réponse A. Plus de 440 000. Réponse B, plus de 260 000. Ou réponse C, plus de 850 000.
Réponse
vous hésitez.
A, plus de 440 000, je sais pas.
Je dirais réponse C.
Plus de 850 000.
Oui.
Ok, eh bien c'est la réponse A. Ouais, d'après les chiffres du gouvernement australien, en 2021, ils étaient plus de 440 000 étudiants à étrangers à faire leurs études en Australie. Et alors, pour finir, dernière question. Donc, on va parler d'Erasmus. Depuis la création d'Erasmus en 1987, combien de personnes ont bénéficié du programme ? Donc, réponse A, 6 millions. Réponse B, 9 millions. Ou réponse C, plus de 12 millions ?
Moi, je vais dire réponse C parce que je suis optimiste.
Et c'est au hasard, du coup, plus de 12 millions
Ouais, plus de 12 millions, c'est bien.
Ça paraît être un bon chiffre. Mathilde ?
Ouais, je vais dire la B.
Donc la B, 9 millions.
Oui.
Ben, la bonne réponse, c'est la C. Donc en effet, Thibaut, depuis 1987, il y a eu 12,5 millions de personnes qui ont bénéficié d'Erasmus. Il faut savoir qu'au début, ce n'était pas si coté que ça, parce qu'en 2009, il y avait seulement 2 millions de personnes qui avaient participé au programme. Donc il y a vraiment eu une montée en puissance qui est arrivée après. Franchement, ça va, vous vous en êtes bien sortis. Thibaut, félicitations. J'espère que vous avez appris des choses en tout cas. Merci à vous deux d'avoir été présents dans l'émission pour nous parler de votre expérience avec le programme Erasmus. L'émission Miaou est terminée. C'est la fin de cette jolie année scolaire et de ce programme. J'ai l'habitude de vous dire à la semaine prochaine. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Je vais plutôt vous souhaiter à tous de bonnes vacances et une belle après-midi sur Graphite.